Open Mic sans limite.
10h05. On est live de Québec en cette soirée du jeudi. Congé de Pâques. Je pensais partir très tôt aujourd'hui du boulot pour profiter de mes vacances. Et Audrey a dit « Non, t'as peur. T'as un show ce soir qu'on avait promis aux auditeurs.
Uh-huh. »
Ben, j'étais content ce soir puisque, ben, de un, je vous voyais. Je pouvais jaser avec les auditeurs du soir, ce que j'avais pas fait depuis un méchant bail. Et de deux, parce que l'invité que vous allez attendre, que vous allez entendre dans les prochaines secondes a accepté d'être avec nous ce soir pour quelques minutes. C'est, je pense qu'à mes yeux, à moi, c'est le meilleur compteur du Québec. C'est un grand communicateur. On l'appelle l'enquêteur du paranormal. Son nom, c'est Christian Page. Je l'aime beaucoup, puis j'espère que c'est réciproque. Christian, je suis tellement content de te retrouver.
Ben, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Et effectivement, le plaisir est réciproque, moi aussi, de te retrouver après tous ces mois. Donc, effectivement, je suis content d'être là.
Des dizaines et des dizaines de livres, tu as fait des émissions pendant des années et des années. Encore aujourd'hui, tu as des émissions de radio, tu participes à des émissions de télé. Est-ce que tu pensais avoir une si longue et belle carrière dans ta passion?
Pas vraiment, parce qu'il faut savoir que au début, quand j'ai commencé, bon, d'abord, c'est le paranormal qui m'a amené à la communication et au journalisme. Mais c'est vrai qu'avant, on a tendance à oublier qu'avant 1995, il n'y avait aucune télévision spécialisée au Québec qui parlait de phénomènes paranormaux. Donc, c'est un peu le désert. Moi, quand je sors de l'université, au début des années 80, je traîne mon petit baluchon, puis j'ai envie de faire du journalisme pour parler de phénomènes étranges. Mais il faut attendre 1995 pour que Canal D apparaisse, la première télévision spécialisée au Québec, et puis vraiment attendre les années 2000. Là, la donne va changer. Avec les années 2000, c'est l'arrivée de télévisions spécialisées comme Historia, Série Plus, Z Télé et compagnie. Et là, ben, éventuellement, on voit toutes sortes de bouquets de télé spécialisées se développer, ce qui va me permettre d'occuper une niche qui n'était pas occupé, parce que, bon, dans un premier temps, les réseaux, les plateformes n'étaient pas là. Et ensuite de ça, quand les médias se sont développés autour de ça, ben, j'étais déjà sur place, donc j'ai pu rapidement occuper la niche. Et effectivement, moi, je croyais que ça durerait quelques mois, quelques années. Et puis, éventuellement, si on considère ça, là, si je pars de Canal D, parce que j'ai participé à des émissions produites à Canal D, je pense à Monde et Mystère et Mystère et Controverse. Là, on est à la fin des années 90. Et donc, je regarde aujourd'hui, on est une trentaine d'années plus tard et je suis toujours là, toujours populaire sur les médias. Donc, je remercie les auditeurs, les téléspectateurs, peu importe sur quelle plateforme ils m'ont vu ou connu. Et tu l'as mentionné, hein, les livres également qui vont très bien, qui étaient en fait mon premier objectif. Moi, je voulais me lancer dans le journalisme écrit.
Ouais.
Et aujourd'hui, ben, je suis 15 livres plus tard. Et 15 livres principalement qui tournent autour des phénomènes étranges et mystérieux. Et j'ai même abordé un peu l'aspect du true crime, hein, les affaires criminelles, mais bien sûr les affaires criminelles qui touchent un peu aussi l'univers du paranormal. J'ai sorti il y a quelques mois, là, donc cet automne, le tome 2 de Les tueurs de l'occulte, parce que bon, Les tueurs de l'occulte 1 avait connu un énorme succès. C'était un peu des dérivés de séries télé que j'avais fait à l'époque pour Canal D. Là, on parle de la fin des années 2000, on parle de 2008-2009 à peu près. Et la problématique quand on fait des séries télé, les gens le voient pas parce qu'eux sont assis devant le téléviseur et regardent l'émission. Mais souvent, on accumule du matériel qui nous permettrait de faire des émissions qui duraient 2h30, 3h. On doit éventuellement, dans un premier temps, on doit s'auto-censurer. Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres non. Et ensuite de ça, il faut savoir, quelle que soit notre volonté, le diffuseur nous dit l'émission doit durer 46 minutes 30 secondes, on ne peut pas dépasser cet aiguillage-là. Donc, éventuellement, j'avais tellement colligé de matériel quand j'avais fait mes séries sur les tueurs de l'occulte que je trouvais ça un peu dommage que du matériel avait été mis de côté parce que, essentiellement, à cause de cet aiguillage-là qui était un peu une contrainte. Et là, donc, ça m'a permis, avec dossier, les tueurs de l'occulte 1, de publier le sujet pour et puis ça a connu un énorme succès. Et là, cet automne, j'ai publié le tome 2, des tueurs de l'occulte. Donc, ce sont 13 histoires où des gens ont commis des crimes en étant inspirés par l'occulte. C'est-à-dire que, ou bien c'est leur motivation, hein, j'assassine mon voisin parce que je pense que le diable me dit de le faire, ou je crois que je suis un vampire, puis j'ai besoin de m'abreuver au sang de mon voisin. Ou bien ce sont des gens qui sont déjà dans une mouvance occulte et qui vont commettre les crimes dans une espèce de rituel. En fait, ils ont une autre raison de commettre le crime, mais la signature occulte devient un peu un modus operandi pour eux parce que ils ont l'impression qu'en signant leur crime d'une symbolique occulte, ils répondent à une espèce de justification, de ritualisation du crime. Donc c'est jusqu'à maintenant, bon, après quelques mois, ça fonctionne bien, les ventes sont bonnes, je suis content, je remercie le public. Et ben, je rappelle que c'est disponible en librairie, donc les tueurs de l'occulte 2.
Ouais, puis c'est des livres qui sont excellents.
Christian, j'ai envie de te demander, parce qu'on va parler évidemment d'histoire paranormale ce soir, comment c'est arrivé dans ta vie exactement, hein?
Ah, ça, c'est la grande question que tout le monde pose.
Ben, c'est parce que des fois, on se demande, est-ce que c'est des choses que tu as vues, vécues, tu t'es mis à t'y
Ouais,
intéresser ou c'est juste une
bah,
curiosité?
ouais, en fait, j'en ai déjà longuement parlé
Ben, j'en doute
avec
pas.
Marceau, hein. C'était en 1976. À l'époque, j'étais adolescent, je faisais de l'autostop et puis il est arrivé une espèce d'incident étrange qui m'a un peu propulsé dans la voie des histoires de fantômes. Et là, ça m'a intéressé. Faut se rappeler qu'en 1976, quand l'événement s'est produit, moi, j'avais 13 ans, je ne m'intéressais pas du tout au paranormal. J'avais strictement aucun intérêt pour le sujet. Comme beaucoup de mes amis, bien sûr, on avait vu, il y avait des séries qui jouaient à la télé, là, Les Envahisseurs et compagnie, de Twilight Zone, Au-delà du réel. Mais en dehors de ça, de ces émissions qu'on regardait, j'avais absolument aucun intérêt pour le sujet. Et à partir de cette expérience-là, qui était très étrange, je me suis retrouvé à la bibliothèque de mon quartier. Là, évidemment, j'étais intrigué par le sujet. Et quand j'ai demandé, au bibliothécaire, est-ce que vous avez des livres sur les fantômes, des trucs comme ça? On me dit oui, rangée 28. Et moi, j'arrive là, puis je m'attends à trouver 3 ou 4 livres sur les rayons. Et là, je découvre qu'il y a des dizaines et des dizaines de livres qui touchent tous les sujets. C'était un peu comme si ces livres m'appelaient, hein? L'univers du paranormal s'ouvrait à moi. Et là, j'ai découvert les ovnis, le triangle des Bermudes, le monstre du Loch Ness et compagnie, là, à travers cette littérature-là. Et à partir de là, ben, la passion a toujours été là. Elle l'est toujours aujourd'hui. On est 50 ans plus tard et pratiquement 50 ans plus tard, ma passion, elle est toujours là. Mais bon, je dis souvent, le paranormal ne m'a jamais déçu. C'est plutôt les gens qui gravitent autour du paranormal qui, eux, avec les années, m'ont un peu déçu parce que j'en ai souvent parlé à Marceau un peu à micro caché. Dans cet univers-là, au début, moi, quand je me retrouve plongé dans cet univers, on sent chez les gens qui s'intéressent à ce sujet-là, et en particulier, par exemple, les ovnis, parce que c'est un sujet qui était très, qui nivelait beaucoup, hein. Là, il y avait un énorme intérêt dans les années 70, début des années 80 pour la question des ovnis. Et je dirais qu'à cette époque-là, les gens, on sentait une saine démarche intellectuelle pour essayer de comprendre quelle était la nature du phénomène. Et puis on voit arriver les médias sociaux, on voit arriver également des explications scientifiques à ces sujets-là, que ce soit les ovnis, mais aussi je pense aux fantômes. Il y a des recherches qui ont été menées, notamment dans le domaine des sciences cognitives, qui nous ont permis de comprendre mieux comment notre cerveau perçoit la réalité et comment il retranscrit cette réalité-là. Hein? Notre mémoire, contrairement à ce qu'on imagine souvent, on dit, ah, la mémoire, c'est comme un peu comme un disque dur sur lequel on enregistre une information. Mais c'est pas tout à fait vrai. La mémoire, elle est reconstructive. Et ça, on le sait grâce aux plus récentes recherches dans le domaine des sciences cognitives. Si je vois quelque chose et je le raconte, ma mémoire reconstruit le souvenir. Elle ne va pas puiser le souvenir, elle reconstruit le souvenir. Et à chaque fois où elle reconstruit le souvenir, Mais elle l'altère un petit peu. Donc, après 10 ou 15 ans, quand je collige le témoignage d'un individu qui me dit, ben moi, il y a 15 ans ou 20 ans, j'ai vu un ovni, je dois absolument tenir compte que la mémoire va modifier, a modifié avec les années ce souvenir-là. Donc, ce qu'il me raconte, c'est ce qu'il croit avoir vu ou avoir vécu, mais pas forcément de manière objective l'expérience. Et donc, moi, ma passion, elle est là et elle demeure, c'est la quête de la vérité. J'en ai, et là je vais être un petit peu grossier, mais j'en ai rien à cirer que les fantômes existent ou n'existent pas. Que nous soyons visités ou non par des extraterrestres, ça ne me dérange pas. Ce que je veux savoir, c'est la vérité. Si quelqu'un dit j'ai vu un ovni, je veux savoir quelle était la nature de cet objet-là, si je peux trouver une explication. J'ai pas à défendre un objectif particulier, j'ai pas un agenda devant moi. Et ça, avec les années, et principalement depuis l'avènement des médias sociaux, on a vu se creuser un fossé entre ceux qui avaient une démarche relativement saine pour essayer de trouver une solution ou une explication à ces phénomènes-là, et une espèce de communauté de gens qui veulent absolument nous vendre du martien, ils veulent nous vendre des fantômes, ils veulent nous vendre
Ben
des
oui.
monstres et toutes sortes de patentes comme ça, et en fait, ils sont motivés par leurs croyances. Mais tu sais, la croyance, elle est légitime, mais expliquer pourquoi tu crois et sur quoi t'appuies ton fondement de croyance, ça, c'est une responsabilité. Et ces gens-là ne font jamais la démonstration de cette responsabilité-là. Donc finalement, j'ai un peu été déçu avec les années parce que bon, malgré tout ce que j'ai consacré à cet univers-là, essayer de comprendre ce qui se passait, de le vulgariser, je suis très souvent la cible de gens sur les médias sociaux qui tirent sur moi à boulets rouges parce que ou bien je suis trop sceptique pour être un bon croyant ou trop croyant pour être un bon sceptique, mais finalement, on s'en sort pas. Je dois absolument maintenir ma ligne de conduite qui est la quête de la vérité. Puis si ça plaît à des gens, tant mieux. Si ça déplaît à des gens, ben tant pis. Mais mon objectif premier, c'est celui-là.
Exact. Christian, j'ai regardé des
Ouais.
centaines d'émissions que tu as fait, j'ai écouté des centaines d'entrevues que tu as fait, j'ai eu la chance de faire de la radio avec toi pendant des années, puis j'ai encore cette chance de te rencontrer ce soir. J'ai eu la chance d'avoir tous tes livres chez moi aussi, je les ai tous lus, je les ai consommés. J'ai le goût de te poser une question, parce que j'ai posé une question à Audrey, puis aux autres personnes qui étaient en studio tantôt. Quelle est la personne la plus incroyable que tu as rencontrée dans ta carrière et qui t'a laissé quand même perplexe ou pantois devant cette personne-là. T'sais, de mon côté, c'était une idole, c'était Chris Hadfield. T'sais, il a fait une sortie dans l'espace. Puis
Ouais.
quand j'ai rencontré cette personne-là, j'ai eu la chance de passer une journée avec lui, puis il me racontait ses histoires. J'avais adoré. L'autre, c'était toi. Là. Toi, t'étais deuxième derrière Chris Hadfield. Mais de ton côté, t'as fait des enquêtes incroyables. T'as rencontré des gens qui ont fait des trucs qui n'avaient pas de maudit bon sens.
Ouais.
Quel est le personnage qui t'a le plus marqué?
Parmi les gens pour lesquels j'avais beaucoup d'estime et qui ont répondu, hein, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés que j'idolâtrais littéralement, et après les avoir rencontrés pour faire des entrevues, on sort un peu déçu, hein. C'est pas tout à fait l'image qu'on se faisait de la personne. Mais une personne qui était même plus grande que ce que j'imaginais, bon, il est peu connu du public, qui n'est pas impliqué dans cet univers-là, mais c'est un type qui s'appelle Wade Davis. Et je t'explique un peu le contexte. Wade Davis, bon, on recule en 1980. Hein, il y a une histoire tout à fait exceptionnelle qui va se produire. En 1980, un homme est retrouvé déambulant dans un petit village de Lester en Haïti. Hein, on est près de Port-au-Prince. Et cet individu, donc, il aborde une femme dans un marché public, il lui tape sur l'épaule, elle se retourne, il lui dit « Bonjour Angelica, est-ce que tu me reconnais ?» Elle le regarde, elle le dévisage. Et elle n'est pas certaine, et puis l'homme lui répond, il dit, ben, c'est moi, je suis ton frère Clairvius. Il s'agit d'un type qui s'appelle Clairvius Narcisse. Alors Angelica Narcisse le regarde, elle semble reconnaître les traits de son frère, mais techniquement c'est impossible. Clairvius Narcisse est décédé en 1962 dans l'hôpital Albert Schweitzer, un hôpital américain en Haïti, et son décès a été constaté par des médecins américains. C'est pas une médecine de brousse, là, ce sont des médecins américains dans un hôpital américain en Haïti qui reconnaissent que Clairvius Narcisse est mort. Donc, comment Clairvius Narcisse, mort en 1962, peut-il être retrouvé en 1980 déambulant dans les rues d'un petit village? Alors, il explique à sa sœur qu'il a été transformé en zombie. Et là, l'histoire qu'il raconte, elle est assez incroyable. Et elle, Angelica Narcisse, était à son chevet lorsqu'il est décédé en 1962. Donc, on comprend davantage son étonnement en voyant son frère qui, littéralement, est revenu d'entre les morts. Et là, il explique, il dit, en 1962, après avoir consommé de la nourriture, des produits, peu importe, j'ai bu quelque chose, il a eu des crampes à l'estomac. Et c'est là qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Et éventuellement, bon, Angelica Narcisse était à son chevet, il est décédé. Les médecins ont constaté son décès, puis ont dit, ben voilà, il est mort. Il faut savoir qu'en Haïti, le corps doit, selon des traditions, et en particulier le vaudou, oublions là, au début là, les fameuses poupées là, avec des pics puis des aiguilles, là. Le vaudou, c'est une religion. Je ne veux pas faire un cours d'anthropologie ce soir, là, mais c'est une religion qui est très répandue. C'est une religion qu'on appelle, qui s'est inspirée, en fait, c'est une religion qui nous vient d'Afrique et qui a été utilisée par les esclaves, qu'on a mélangé un peu avec le catholicisme durant les périodes où on a amené des esclaves. Et donc, c'est très répandu, notamment dans les Antilles, et il y a toutes sortes de rituels. Donc, selon les rituels de ces gens-là, d'une religion syncrétienne, hein, parce qu'on s'est inspiré, il y a certaines figures qui ont été empruntées à la religion catholique. Donc, on se dit, ben voilà, on doit remettre le corps, il doit être inhumé avant le lever du jour ou avant la tombée de la nuit suivante, selon un protocole particulier, dépendamment de l'heure du décès. Donc, on remet le corps à la famille. Il n'y a pas d'embaumement, bien sûr. On remet le corps et immédiatement, le corps est mis en terre. Et là, Clervius Narcisse raconte une histoire incroyable. Il dit, je me rappelle quand on m'a mis dans mon cercueil. Je me rappelle qu'on a cloué le couvercle sur mon cercueil. Je me rappelle avoir senti un clou me toucher le bord de la joue. Ensuite, il se rappelle qu'on l'a placé dans le trou. Il a entendu la terre qu'on jetait sur son cercueil. Et là, il dit, ensuite, il passe dans une espèce d'univers entre le rêve et la réalité, il dit, j'ai comme perdu conscience, et puis à un moment donné, je me retrouve, je suis debout aux côtés du trou, il y a avec moi d'autres zombies qui sont là, et puis on nous fait monter dans un camion, on nous amène de l'autre côté de l'île, on nous amène sur une propriété terrienne où il va travailler comme esclave pendant plusieurs mois, et à un moment donné, il y a autour de lui toutes sortes d'autres zombies, hein? Et quand on dit d'autres zombies, c'est vraiment également avec l'attitude du zombie, donc des gens qui marchent avec des pas saccadés, qui sont à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. Et puis éventuellement, il va y avoir une espèce de révolte parmi les zombies. C'est un peu amusant de raconter ça de même. Et ces gens-là, après s'être révoltés, ils vont tuer le propriétaire terrien et ils vont s'enfuir dans les montagnes. Clervius Narcisse va vivre avec ces gens-là pendant 18 ans. Il est persuadé à ce moment-là que la personne qui est responsable de sa zombification est son propre frère. Ils avaient eu un différend à propos d'un legs sur des territoires, des terres, et puis il croit que son frère a voulu se débarrasser de lui en faisant appel à un sorcier vaudou pour le zombifier. Il faut savoir que dans la culture vaudou, la pire chose qui peut arriver, c'est d'être un zombie. C'est pas de mourir. Si t'es mort, ton âme va aller ailleurs. Mais si t'es un zombie, ton âme est coincée entre le
Pris.
monde terrestre et l'au-delà. T'es prisonnier. Et là, éventuellement, 18 ans après, il entend dire que son frère est décédé, hein, parce que des gens dans son petit village allaient de temps en temps Port-au-Prince. Et là, à un moment donné, l'un d'entre eux revient, lui dit, j'ai appris que ton frère était décédé. Et c'est donc 18 ans après, à l'annonce de cette nouvelle, que Clervius Narcisse décide de retourner dans son village natal, où il va croiser sa sœur au marché public et se présenter à elle. C'est une histoire assez incroyable. Et à partir de là, il faut savoir qu'à ce moment-là, à Port-au-Prince, il y avait un psychologue qui s'intéressait, qui est un type qui s'appelait Chaman Douillon, qui est un psychologue, qui s'intéressait à ces histoires de zombies. C'était pas la première fois que quelqu'un avait été retrouvé errant dans des rues et qu'on avait pu démontrer que cette personne-là avait été qualifié de mort et semblait être revenu d'entre les morts. Mais aucune n'avait pu se justifier de manière à produire un certificat de décès. Ou pire, ces gens-là avaient comme perdu tout souvenir de leur expérience. Hein. Ils étaient réellement dans des espèces d'états catatoniques. Ce qui n'était pas le cas avec Clervius Narcisse. Non seulement il pouvait démontrer qu'il était celui qu'il prétendait être, il avait un certificat de décès il avait un assez bon souvenir de sa zombification. Et c'est là que le monde va basculer, le monde scientifique bascule. Parce qu'à partir du moment où Chaman Douillon, qui est un psychologue, qui a été formé à Montréal d'ailleurs, lorsque Chaman Douillon se rend à l'hôpital d'Albert Schweitzer, hein, bon, j'ai rencontré tous ces gens-là, puis ils me racontaient, ils disent, on est arrivé au comptoir, puis on dit, oui, on voudrait avoir, il était accompagné de Clervius Narcisse, ils arrivent au comptoir à la réception de l'hôtel Albert Schweitzer, et là, ils demandent, ils disent, est-ce que je pourrais consulter le dossier de Clervius Narcisse? Alors, on va chercher le dossier, on regarde ça, et le médecin le regarde dans les yeux, puis il dit, vous savez, monsieur, vous êtes mort depuis 18 ans, hein? Ça te montre un peu l'aspect absurde de la chose. Et donc, on avait un certificat de décès, et là, donc, on avait aussi un peu le concept de qu'est-ce qui s'était produit. Et là arrive mon idole, hein, dans le sens que, à partir de ce moment-là, la communauté scientifique avait toujours cru que les histoires de zombies étaient un peu du folklore local, l'associé au vaudou. Mais là, on avait des éléments qui étaient probants, qui semblaient démontrer une espèce de processus magico-religieux, mais également qui impliquait des états pathologiques. Et là, on s'est dit, ben, il y a sûrement quelque chose derrière ça. C'est sûr que Clervius Narcisse n'est pas mort et revenu à la vie. On croyait qu'il devait y avoir un poison ou une drogue quelconque qui permettait de placer ces gens-là dans l'état où on dit l'état de zombification. Donc, Narcisse va devenir le sujet d'une étude par des scientifiques nord-américains. Il y a un groupe de scientifiques à New York, notamment, qui se disent, bon, il faut envoyer quelqu'un là-bas qui va réussir à s'introduire dans la communauté vaudou, qui est une communauté, qui est une communauté, pardon, excessivement étanche, et essayer de trouver quelles sont les drogues qui permettent de faire ça. Et l'homme qui va être élu pour faire ce travail-là, c'est un type qui s'appelle Wade Davis. Wade Davis est un ethnobotaniste canadien. Il est né à Vancouver. Il s'est fait remarquer notamment dans les années 70 pour avoir trouvé plusieurs plantes, notamment en Amérique du Sud, des plantes avec des propriétés médicinales. Donc, c'est un spécialiste des plantes. Donc, on s'est dit, voilà l'individu le mieux placé pour essayer de déterminer si cette histoire de zombification repose sur un quelconque poison. Donc, Wade Davis se rend en Haïti. Il va côtoyer pendant de longs mois les communautés qui s'intéressent au vaudou. Il va rencontrer des sorciers et ces sorciers éventuellement vont lui livrer le secret en lui disant, voilà, c'est une poudre qu'on utilise pour faire des zombies. Donc, Wade Davis va réussir à ramener des échantillons de poudre et ce qui est étonnant, c'est qu'il reçoit de la part de plusieurs sorciers de la poudre différente. Parfois la poudre est brune, parfois elle est jaune, parfois elle est blanche, mais tous les sorciers définissent cette poudre, comme la poudre à faire des zombies. Donc, Wade Davis revient avec ces échantillons qui sont analysés d'une part à New York, mais également à l'université McGill à Montréal. Et ce qu'on va découvrir en regardant cette fameuse poudre, c'est que c'est du grand n'importe quoi. Il y a des pattes d'araignée broyées, des écailles de poisson, des plantes, il y a du n'importe quoi. Mais il y a un dénominateur commun à toutes les poudres. Et ce dénominateur commun, c'est la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, c'est un poison qu'on retrouve dans l'estomac, en fait, dans les intestins, des fameux poissons-globes. Hein, les poissons-globes qui sont excessivement venimeux. Hein. Si on touche un de ces poissons-là, on se fait piquer, ben évidemment, on peut mourir. Les Japonais l'utilisent depuis longtemps pour faire le fugu, un mets très raffiné, parce que comme les chairs sont un peu intoxiquées, elles contiennent cette toxine, si on mange le fugu, s'il est bien apprêté, hein, on a un effet de buzz un peu. Hein. C'est un plat qui est excessivement dispendieux. On a un peu l'effet comme si on avait pris du LSD. S'il est mal apprêté, le fougou, on peut en mourir empoisonné. C'est ce même poison que les sorciers vaudous avaient découvert de manière empirique, qu'on utilisait, qu'on mélangeait à toutes sortes d'autres produits qui étaient absolument inefficaces. Mais la tétrodotoxine, prise à une quantité particulière, plongeait ces individus en état de mort apparente. C'est-à-dire que le rythme cardiaque s'abaissait à un point tel qu'on a réussi, d'ailleurs, dans le cas de Clervius Narcisse, on a réussi à tromper des médecins dans un hôpital américain. So Wade Davis, il a écrit un ouvrage qui a changé la donne en pharmacologie, hein, qui s'appelle The Serpent and the Rainbow, le serpent et l'arc-en-ciel, dans lequel il raconte cette histoire-là, comment il a découvert la poudre à faire des zombies. On a fait un film éventuellement qui s'appelle, Je pense L'Emprise des ténèbres en français, un film dans les années 80 qui raconte l'histoire de Wade Davis. Et même aujourd'hui, hein, la découverte de Wade Davis est utilisée dans le sens où on envoie des médecins faire de la médecine de brousse, par exemple, dans des régions qui sont tropicales, près de la mer. Ils savent, on leur apprend à comment retrouver un poisson lune, hein, qu'on retrouve dans toutes les mers du monde à peu près, comment en extraire la tétrodotoxine et comment l'utiliser comme anesthésiant de fortune. Donc, Wade Davis a révolutionné la pensée scientifique, a révolutionné un peu le monde de la pharmacologie, le monde également de l'ethnobotanie. Et Wade Davis est devenu une légende. Hein. Il a été longtemps l'un des directeurs de recherche au National Geographic Society à Washington, D.C. Hein. Et Wade Davis, j'avais une admiration pour lui à cause de sa persévérance. Hein, il avait raconté dans des entrevues que quand on l'avait approché pour s'intéresser à ce sujet, plusieurs de ses collègues avaient essayé de le convaincre de pas s'impliquer en lui disant, ben écoute, on voulait le dissuader en disant, ben écoute, Wade, si tu t'intéresses à une histoire de zombies, c'est tellement loufoque que tu vas perdre toute crédibilité. Mais Wade Davis s'est dit non, il y a sûrement quelque chose et ce qu'on pourrait trouver dans cet univers du folklore, le surnaturel, il y a peut-être un fond de réalité qui pourrait nous amener à faire des découvertes. Et Wade Davis a tenu son bout malgré les quolibets de ses collègues scientifiques et il a révolutionné en fait ce monde de la pharmacologie, l'ethnopharmacologie. Alors, j'avais une espèce d'admiration pour Wade Davis. Et éventuellement, je tournais une série, on parlait justement des zombies, et là, je me disais un peu comme un rêve d'enfant, si je pouvais rencontrer Wade Davis. Finalement, je le rejoins à la National Geographic Society à Washington, D.C., et presque spontanément, je me disais, bien sûr, il m'invite chez lui à Washington, D.C. à passer un après-midi avec lui. Alors, j'arrive chez lui. J'entre dans sa maison, un véritable musée. Hein, il a ramené du monde entier toutes sortes de trucs étonnants, des sarbacanes de populations autochtones d'Amérique du Sud, des boucliers Maasai qu'il a ramenés d'Afrique. Donc, on a l'impression vraiment de se promener dans un musée d'ethnologie là, quand on est chez lui. Et là, donc, il me reçoit. Écoute, j'ai passé 4 heures à discuter avec lui de ce sujet-là. Un homme modeste, ouvert, et à chaque fois que j'essayais de le remettre sur un piédestal en disant, oui, mais Wade Davis, vous avez transformé le monde de la pharmacologie. C'était, mais non, ça ne m'a ouvert que sur une littérature. Déjà, les Japonais utilisaient ça, le fugu avec la tétrodotoxine. C'était un poison, une toxine qui était déjà connue. Donc, à chaque fois, il essayait de minimiser son rôle. Mais en réalité, Wade Davis est un grand bonhomme et dont la découverte en 1980 a transformé notre façon de voir ces cultures autochtones qui utilisent des rituels magico-religieux de cette manière-là.
Quel
Et grâce à
personnage
lui,
intéressant, oui.
faut le dire, grâce à ses contacts, j'ai pu moi-même, après ça, aller en Haïti et être introduit dans ces communautés-là, assister moi-même à une cérémonie vaudou où les gens entraient en transe et ils étaient, une espèce, eux disent chevauchés, nous on dirait possédés, hein, possédés par des esprits que eux appellent des loas. Ça a été pour moi tout le cheminement de ça, ma rencontre avec Wade Davis et éventuellement être à mon tour aller en Haïti et être introduit dans cette communauté où on pratiquait le vaudou, ça a été pour moi une révélation de découvrir ça. Et je garde quelque part dans mon imaginaire, Wade Davis demeure un des personnages les plus extraordinaires que j'ai rencontrés.
Non, ça s'entend, puis j'ai pris une note pour être sûr et certain d'aller voir exactement qui était cet individu-là, quoique tu nous as fait quand même une super de belle description. Ce soir, avec Christian Page, l'enquêteur du paranormal, je veux qu'on jase de phénomènes inexpliqués ou peut-être maintenant expliqués par tes recherches qui se sont passés à Québec. Plus précisément, on va commencer par l'événement sur la rue Monseigneur Gautier à Beauport en 1989. Je t'en avais déjà parlé. Moi, c'est un immeuble. Je passais souvent devant cet immeuble-là. Puis à un moment donné, à la télé, il y a eu un reportage et c'était cet immeuble-là où je passais pratiquement à chaque jour qui était dans ce fameux reportage-là. Je me suis assis, j'ai écouté le reportage et j'étais en état de panique. Toi, tu as enquêté sur cette histoire-là.
Oui, j'étais là, moi. Quand les murs bougeaient, j'étais là.
On l'appelle l'esprit cogneur, mais est-ce qu'on l'appelle
Ouais.
l'esprit cogneur à ce moment-là?
Ben en fait, l'affaire a fait la manchette dans les journaux de Québec sous le titre de La maison hantée de Beauport. Hein, on la définissait plutôt comme une maison hantée. Donc, je rappelle un peu le contexte. On est à l'été de 1989. En fait, on est dans la deuxième moitié du mois de juillet. L'édifice est le 3566 rue Monseigneur Gauthier. À ce moment-là, on est à Beauport. Hein, aujourd'hui, c'est le secteur Beauport, là, mais c'était la ville de Beauport à l'époque, qui avait donc sa propre administration indépendante. Et donc, à partir de la mi-juillet, il faut savoir que cette maison-là, le 3566, c'est quatre appartements hein, dans cette maison-là, deux au rez-de-chaussée et deux au premier étage. Et donc, à partir de la mi-juillet, le mur mitoyen qui sépare les deux appartements du bas commence à cogner. Et pas les autres murs, mais le mur mitoyen entre les deux. Et les appartements sont occupés d'un côté par Madame Sans Chagrin, puis de l'autre côté par Madame Cochrane. Évidemment, quand le mur commence à frapper, ça frappe fort, c'est vraiment des coups très forts dans le mur, évidemment, chacune des locataires croit que c'est sa voisine qui cogne dans le mur. Qui plus est, Madame Cochrane a chez elle deux jeunes filles, deux adolescentes. Donc, on se dit peut-être que les adolescentes sont plus turbulentes, c'est elles qui font ces bruits dans le mur. Et éventuellement, les deux femmes se parlent et elles découvrent qu'elles entendent toutes les deux, en fait, ces coups-là et personne, ni d'un côté ni de l'autre, ne frappe dans le mur. Les coups semblent provenir de l'intérieur du mur. Donc, elles vont contacter la propriétaire parce qu'il y a une inquiétude, bien sûr. Elles appellent la propriétaire, Madame Sans Chagrin, hein, Jeanne Sans Chagrin, si je me rappelle bien. Et donc, elle va envoyer un inspecteur qui va aller sur les lieux, va vérifier les sous-niveaux, va vérifier le bâtiment. Il n'y a rien qui permet de comprendre pourquoi ça cogne de cette manière-là. Et éventuellement, les coups vont se répercuter sur les appartements du premier étage. Donc, après quelques jours, les gens au premier étage aussi commencent à entendre des coups qui cognent dans le mur. Éventuellement, pour essayer d'en avoir le cœur net, comme c'est le mur mitoyen, elles vont découper des panneaux de placoplâtre pour voir à l'intérieur du mur s'il y a quelque chose qui frappe dans le mur. Mais il n'y a rien et le mur continue de cogner. Et éventuellement, c'est probablement ce dont tu parles, non seulement les journaux de Québec vont faire en fait leur chou gras avec cette histoire-là, puisqu'en été, on manque souvent de nouvelles, donc ça tombe à point
C'est
nommé.
pas vrai.
Et qui plus est, TVA de Québec va se rendre sur place et à un moment donné, le mur de placoplâtre est ouvert.
C'était monsieur Robert Plouffe qui était le
Ouais.
journaliste à l'époque, qui est devenu un patron par la suite, là, mais qui était en enquête sur ce dossier.
Et là, je pense que c'est un peu l'image qui va frapper les gens. Hein. Il est en train de discuter avec Madame Sans Chagrin. Non, c'était Madame Godbout, je crois. Et là, il dit à Madame Godbout, il dit oui. Elle est devant le mur, et là, on voit le morceau de placoplâtre qui était enlevé, hein, le G-Prop qui est enlevé. On voit donc les montants des 2x4 dans le mur. On a enlevé la laine isolante, tout le reste. On voit vraiment le mur est complètement dégarni. Et là, il demande à Madame Godbout, il dit, oui, madame, vous dites que votre mur bouge et ça cogne. Pouvez-vous nous dire comment ça cogne? Et comme il pose la question, on voit le mur devant la caméra, derrière elle, se mettre à frapper le bang, bang, et on voit la cloison qui bouge, c'est spectaculaire. Et Madame Godbout, qui elle, depuis des jours, entend les bruits, ne sourcille pas, elle dit, bah, ça cogne comme ça, monsieur. Puis là, en pointant avec son pouce vers l'arrière, vous montrez le mur qui est derrière elle. Ces images sont particulièrement étonnantes et c'est rare que l'on voit dans l'univers de l'étrange et de l'insolite un phénomène être filmé de cette manière-là. Donc, qu'est-ce qui va se produire à partir du moment, bon, là, évidemment, les images vont faire le tour de tous les réseaux, on ne parle que de ça, les journaux multiplient les interventions, les journalistes font littéralement la queue devant le 3566 sur rue Monseigneur Gauthier pour avoir des entrevues avec les locataires. Et éventuellement, on va demander à Gaz Métropolitain, par exemple, de se rendre sur place, parce que l'une des hypothèses, c'est que du gaz s'accumulerait entre les cloisons, et à un moment donné, lorsque la pression est trop forte, il y aurait une espèce de claquement, et c'est ce claquement qui ferait bouger les cloisons. Évidemment, on se pose la question, oui, mais si le mur a été ouvert, il n'y a pas de raison que ce claquement-là continue de se produire. Néanmoins, les gens de Gaz Métropolitain vont se rendre sur place. Monsieur Casey, de mémoire, qui va arriver là avec des instruments, il descend sous-sol, il n'y a aucune émanation de gaz. Et alors qu'il est là, il entend juste au-dessus de lui, parce qu'il se trouve vis-à-vis le mur mitoyen, il entend le mur qui cogne. Alors, il voit bien qu'il n'y a aucune émanation de gaz à ce moment-là. On est vraiment dans un vide absolu d'explication. On ne sait pas ce qui se produit. Alors, on avance des hypothèses. C'est un été particulièrement chaud à Québec à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un tassement de sol qui produirait ces effets-là? Hein, la maison bougerait à cause du sol trop sec. Mais si la maison bougerait, on devrait enregistrer sur les maisons voisines des coups semblables ou des éléments dans la structure qui seraient semblables. Et ensuite, c'est pas la première fois qu'il c'est une maison qui a été construite il y a, dans les années 40, 30 ou 40, cette maison-là. Donc, c'est pas le premier été qui fait chaud à Québec. Alors, pourquoi cet été-là? Pourquoi pas l'été d'avant ou 2 ans plus tôt? Pourquoi cet été-là? Donc, on se pose la question. Et bien sûr, des coups semblables ou des tassements de sol ne sont pas rapportés sur les maisons voisines. Et éventuellement, comme on n'arrive pas à trouver d'explication, ben, on en ajoute, on multiplie, mais néanmoins, la ville de Beauport est saisie du dossier. Et elle va demander à un inspecteur d'un bâtiment de l'endroit, M. Dubé. Et c'est là que M. Dubé va se rendre sur place et moi, je l'accompagne. Donc, j'arrive là avec M. Dubé parce que je l'avais contacté, je savais que j'avais appelé la ville de Beauport. On me dit, on a demandé à M. Gaston Dubé de se rendre sur place, on attend sa visite. J'appelle M. Dubé, il me dit, ben, vous pouvez venir avec moi. Donc, moi, j'arrive avec lui, on entre dans la maison, on fait les 2 appartements, Madame Godbout et Madame Sans Chagrin, et à un moment donné, le mur est ouvert du côté de chez Madame Godbout, mais il est fermé du côté de chez Madame Cochrane. Donc, on est chez Madame Cochrane. Le mur, quand il bouge, on voit le placoplâtre qui bouge. Et là, et les coups étaient très répétés, là. C'était un, deux coups toutes les 4 ou 5 minutes, là. Donc, à un moment donné, après une série de coups, je m'accote sur le mur en placoplâtre pour voir quelle est la force du mur. Écoute, Yannick, j'ai été repoussé là, littéralement 2 pieds. Quand ça a frappé, là, c'est comme si j'avais été plaqué par un joueur de football sur le terrain, là. Donc, j'ai reculé. J'ai été vraiment étonné. Monsieur Dubé a fait exactement la même expérience. Lui aussi a été étonné par la force des coups qui étaient donnés. Et comme les coups se répercutaient éventuellement au deuxième étage, la ville de Beauport a décidé d'évacuer le bâtiment. Donc, on n'arrivait pas à trouver d'explication, mais on s'est mis à craindre qu'il y ait un effondrement de la bâtisse et on voulait protéger les locataires, évidemment. Donc, avec l'accord de la propriétaire et l'accord de la ville, on a décidé d'évacuer. C'est un policier, Monsieur Marié, Robert Marié, à l'époque, qui avait procédé à l'évacuation du bâtiment. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, bon, faut dire aussi que le 4 août, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Le 4 août 1989, un des murs, là, il a commencé à avoir d'autres murs dans l'appartement qui ont commencé à bouger. Et le 4 août, un mur qui était au-dessus du lit des 2 adolescentes de chez Madame Cochrane a été défoncé. Donc, à partir du moment où le mur de placoplâtre est défoncé, on se dit là, ça commence à être du sérieux. Bon, je ne me prononcerai pas. Est-ce que ce sont les adolescentes qui ont voulu en rajouter, qui ont donné un coup dans le mur? Il y a toutes sortes d'hypothèses, mais néanmoins, le 4 août, le mur a été défoncé. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Là, la ville a décidé d'évacuer le bâtiment. Les gens ont donc quitté, se sont logés à l'hôtel, mais durant cette période, bien sûr, ils retournaient, hein, c'est Madame Godbout qui me disait qu'elle, sur un des calorifères qui était sur le mur mitoyen, elle avait déposé des petits bibelots en porcelaine. Et elle me dit, bon, une fois qu'on a quitté, ils ont quitté les lieux, était le 5 ou le 6 août, elle me dit, bon, dans les jours qui ont suivi, je suis retourné à la maison pour aller chercher des vêtements, aller chercher le courrier, et à chaque fois, je constatais que les petits bibelots sur le calorifère étaient tombés, ce qui montrait bien que le mur avait bougé et avait fait tomber les bibelots. Et après quelques jours, elle me dit, à un moment donné, j'arrive, et là, je vois que sur les 6 bibelots, ben, il n'y en a que 2 qui ont tombé. Et ensuite de ça, quand il est retourné, ben, les bibelots étaient toujours là. Les coups avaient arrêté. Et on n'a jamais trouvé l'explication à ça. L'une des hypothèses la plus souvent évoquée, c'est ce fameux tassement de sol avec une sécheresse, parce que l'été 89 a été chaud, mais il faut se rappeler que, et j'avais fait sortir les données à ce moment-là, au début du mois d'août 1989, dans les 3 premiers jours du mois d'août 1989, il y a eu d'importantes pluies à Québec. Et le sol s'est gorgé d'eau, ce qui n'a pas empêché le mur de continuer de cogner, et ce pendant au moins 2 semaines après ces pluies importantes. Donc l'explication du tassement de sol n'est pas exclue, mais en tenant compte du fait qu'il y a eu beaucoup d'eau au début du mois d'août, c'est une hypothèse qui prend un peu du plomb dans l'aile. Mais comme les coups sont cessés d'eux-mêmes sans que personne arrive à déterminer l'origine de ces coups, ben l'affaire reste pour l'instant toujours inexpliquée. On ne sait pas. Ceux qui veulent croire que c'est un fantôme ou un poltergeist, libre à eux. Ceux qui veulent croire qu'il devait y avoir une explication naturelle, ben, libre à eux aussi. Je sais qu'il y avait il y avait une compagnie pas tellement loin qui faisait faisait exploser des trucs à la dynamite, de la roche à la
La
dynamite,
carrière,
espèce de
la
carrière.
carrière Véro.
Ouais, mais on a fait sortir les documents sur les moments où ils ont procédé à des explosions, et ces explosions-là ne correspondent pas aux coups frappés dans le mur. Ensuite, on a regardé, on sait qu'à Québec, dans le fleuve Saint-Laurent, il y a une légère marée, hein, qui se fait. On a constaté avec les heures de marée, ça ne correspondait pas non plus. Donc, on a éliminé les marées, on a éliminé les explosifs, on a en partie éliminé la sécheresse, on a éliminé le gaz qui se formait dans les murs. Il reste plus beaucoup d'explications pour lesquelles. Et ensuite, il faut quand même le dire, cette maison-là n'a jamais rebougé par la suite, hein. Madame sans chagrin n'a fait aucune modification à l'édifice. Les gens, les locataires qui étaient là, éventuellement, dans les 2 années qui ont suivi, ils ont tous déménagé. Aujourd'hui, la maison, on reconnaît vaguement un peu la silhouette. Il y a eu quand même beaucoup de transformations. Mais jusqu'au début des années 2000, la maison était à peu près demeurée la même. Et à aucun autre moment, il y a eu des coups dans les murs de manière quelconque, et peu importe la période de l'année. Donc, ça ne s'est produit qu'à une période assez courte, 3 semaines, été 1989. Et pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. On ignore quelle était la source ou l'origine de ces coups.
Quelle histoire! Autre histoire qui a touché Québec et Christian Page. Puis encore une fois, de temps en temps, on rencontre des gens qui nous disent avoir déjà vu cette dame-là qui se tiendrait dans le secteur des Chutes Montmorency. On l'appelle la
La Dame
Dame Blanche.
Blanche.
J'ai un de mes cousins, moi, qui a travaillé au manoir Montmorency, qui me jure qu'il en a vu une Dame Blanche. Il y a de ses clients qui ont vu effectivement la Dame Blanche. D'où vient cette histoire-là et qu'est-ce qui fait que ce type de légende-là fait en sorte que ça revient année après année? Les gens nous racontent toujours la même histoire de la Dame Blanche. As-tu déjà enquêté sur cette histoire-là?
Ben, en fait, ce phénomène-là de la Dame Blanche, une espèce de folklore local, mais qui est très répandu, hein. Dans plein d'endroits où il y a des cascades ou des chutes, il y a ces histoires de Dame Blanche. Et pourquoi cette histoire-là revient? Ben, je pense parce que le phénomène, il est réel, hein. Mais je pense que le phénomène est un phénomène naturel, mais qui alimente la légende. Donc, la légende, elle reste un peu floue. On n'a pas de document qui permet de conclure en son authenticité. Bon, l'histoire voudrait qu'en 1759, alors que les troupes, en fait, la colonie française était face à l'arrivée des militaires anglais sous la gouverne du général Wolfe. Donc, on s'est dit, ben, il faut essayer de se défendre. Et à ce moment-là, alors que il y avait un peu cette confrontation qui se faisait aux portes de Québec, il y a, selon la légende, il y avait un couple, Mathilde et Louis, qui se préparait à convoler en juste noces. Et là, malheureusement, à cause de la présence des troupes anglaises, on a demandé à Louis de faire l'effort de guerre, de se joindre un peu aux milices qui étaient sur place. Donc, Louis décide de retarder le mariage, se joint aux milices, et il va y avoir, le 31 juillet 1759, cette bataille, littéralement au pied des chutes Montmorency, qui est passée dans les livres d'histoire comme étant la bataille de Beauport ou la bataille des chutes Montmorency. Et on raconte que durant cette bataille, Louis est décédé, assassiné, tué par un soldat anglais. Après le conflit, Mathilde, inconsolable d'avoir perdu son mari, son futur mari, ben, inconsolable, elle a revêtu sa robe de mariée qu'elle avait déjà fait préparer pour son mariage, et elle est montée en haut des chutes et elle s'est jetée dans la cascade. Et depuis, on raconte que certains soirs de pleine lune, dans la bruine qu'on voit au pied des chutes, on peut voir la silhouette de cette Dame Blanche. Je pense que le phénomène, il est réel, c'est-à-dire qu'en période de pleine lune, dû à un éclairage particulier, dans la bruine au pied de la cascade, avec un peu d'imagination, je pense qu'on peut voir parfois par les reflets une forme qui peut représenter un peu une mariée. Et je pense que c'est parce que ce phénomène naturel, il existe et que les gens le voient, qui donne vie à la légende. Il faut savoir aussi qu'en dehors de la cascade principale qu'on appelle, qui est la chute Montmorency, juste un peu avant d'arriver à la chute principale, il y a une plus petite cascade. Et cette plus petite cascade, de par sa forme, on semble deviner également elle semble marquer les contours d'une silhouette de mariée. Certains l'appellent la cascade de la Dame Blanche, même si l'apparition elle-même est plutôt au pied de la chute principale. Mais comme on a une espèce d'environnement qui est un peu enchanteur, féerique, et que par certaines nuits, avec la lumière de la pleine lune, sur les gouttelettes d'eau à la base de la cascade, peuvent former plus ou moins une silhouette, je pense que la légende va perdurer. Mais il faut savoir qu'elle ne repose sur, mis à part une espèce de légende du bouche à oreille qu'on se raconte depuis des générations, il n'y a pas de document qui permet de croire, de déterminer s'il y a réellement eu une Mathilde ou un Louis dans
Ouais.
l'histoire. T'sais.
Est-ce que le phénomène justement de la bruine, la lumière que la lune nous reflète, est-ce que c'est un peu comme la pareidolie quand on regarde les nuages?
Absolument, absolument. Donc, c'est un phénomène de pareidolie. On arrive là. Et comme notre cerveau n'aime pas le vide, ben, s'il y a des espèces de formes qui apparaissent en fait dans ce nuage de bruine, notre cerveau va essayer de voir des formes. Et puis, évidemment, on peut avoir l'impression de voir une femme voilée avec une grande robe blanche dans les remous de la cascade. Mais bon, ça repose sur aucune. C'est une légende, en fait. Et on en retrouve beaucoup de ces légendes-là. Hein? Des légendes de Dame Blanche, des légendes d'auto-stoppeurs. Hein? Juste à la sortie de Québec, on a le parc qui va vers le lac Saint-Jean et tout le reste, là, vers le Saguenay. Ben, il y a une légende d'auto-stoppeurs fantômes. Hein? Mais des légendes d'auto-stoppeurs fantômes, il y en a plein hein? Dans des régions un peu isolées, que ce soit en France, en Angleterre. On a ces légendes d'auto-stoppeurs
Oh, ça m'a
fantômes. Donc
toujours fait
des.
peur, ça, le Christian, je vais t'avouer. Là, j'embarque
Donc
pas de tout ça à cause de tout
des automobilistes
ça,
qui racontent avoir vu une forme sur le bord de la route. Et certaines de ces histoires sont très articulées. Hein. L'une des histoires qu'on raconte, souvent associée il y a plusieurs variantes, mais une histoire qu'on raconte souvent avec les autostoppeurs fantômes, c'est l'histoire d'un automobiliste qui aurait embarqué une jeune femme par une soirée pluvieuse. Et là, il s'est proposé de la reconduire chez elle. Et là, lorsqu'il arrive devant la maison, il lui propose de lui remettre son imperméable hein, pour qu'elle fasse le trajet de son véhicule à chez elle. Elle accepte. Le lendemain, il retourne sur place pour récupérer son imperméable et lorsqu'il frappe à la porte, la dame qui lui répond, une dame âgée, lui dit, il y a personne ici, il n'y a pas de jeune femme dans la vingtaine qui habite ici. Et quand il fait une description de la femme qu'il a embarquée comme ça qui faisait de l'autostop, elle comprend qu'il parle de sa fille décédée 20 ans plus tôt, qui est enterrée dans le cimetière tout
Oh.
près. Et là même, il y a certaines histoires qui disent, l'individu va dans le cimetière, voit la pierre tombale et son imperméable qui gît au pied de la pierre tombale. Bon, c'est une histoire fantastique. Hein, c'est une des variantes des autostoppeurs fantômes. Mais ces histoires-là, elles sont courantes. Et souvent, quand on essaie de remonter à la source, on ne la trouve pas. C'est-à-dire, c'est toujours l'histoire de. On raconte, mais on raconte, c'est qui ça? On raconte ça à une personne, mais qui est cette personne-là? Donc, on n'arrive jamais à trouver le témoin. C'est toujours des histoires que l'on raconte et qui font partie, qui alimentent un certain folklore.
Ouais. La reine Élisabeth est venue quelquefois au Québec, dont une fois entre autres où elle était très jeune, puis elle aurait mentionné qu'elle avait aperçu un fantôme aux abords du château Frontenac. Est-ce que c'est une histoire qui est réelle ou encore là, c'est quelque chose qui a été raconté
Encore
par
une fois, c'est
Élisabeth?
une espèce de. Il faut comprendre que le château Frontenac, hein, pour beaucoup de gens qui n'habitent pas la ville de Québec, on a souvent l'impression que c'est un château qui est vieux, qui est très ancien, alors qu'il a été construit à la fin du 19e siècle. Il a été construit par le Canadien Pacifique qui développait la voie ferrée d'un océan à l'autre, hein, pour reprendre leur slogan. Et on voulait faire sur le trajet de la voie ferrée depuis les Maritimes jusqu'en Colombie-Britannique, on voulait créer une chaîne d'hôtels et le Canadien Pacifique donc développait des hôtels assez luxueux. Hein. Le Château Frontenac aujourd'hui compte à peu près 600 chambres. Hein. C'est un grand hôtel qui aujourd'hui fait partie de la chaîne des Fairmont. Donc, on fait construire cet hôtel et éventuellement, il y aura des légendes qui ont commencé comme beaucoup d'hôtels. Il y a des légendes de chambres qui sont hantées. Moi, il y a des femmes de chambre qui m'ont raconté l'histoire de la chambre qui dit oui. Hein,
C'est quoi
et
ça?
c'est une chambre où les femmes de chambre, hein,
Ben voyons,
généralement,
Audrey.
avant d'aller faire une chambre, les femmes de chambre, hein, cognent toujours sur la porte pour s'assurer que les personnes à l'intérieur de la chambre soient décentes. Et là, donc, ils frappent sur la porte et elles disent, on entend une voix qui dit oui. Et c'est plusieurs femmes de chambre qui m'ont raconté l'histoire. Donc, elles cognent et elles entendent une voix de l'autre côté de la porte qui dit oui, une voix d'homme. Et donc, elles entrent avec leur passe, elles entrent dans la chambre et la chambre est vide. Il n'y a personne. Donc, qui a dit oui? Hein? Qui est cette personne, cette voix fantomatique qui répond par oui? Et d'ailleurs, dans le milieu des femmes de chambre au Frontenac, ils appellent cette chambre la chambre qui dit oui à cause de ça. Mais l'histoire dont tu parles concerne une légende qui voudrait que le fantôme de Monsieur Louis de Buade, Monsieur de Frontenac, soit hante les abords du château Frontenac ou sinon le château Frontenac. Il faut savoir que là où se trouve la terrasse du Frein, il y avait le fort Saint-Louis qui était là. Et même si on en est incertain, on croit que Frontenac est peut-être décédé au fort Saint-Louis. Donc s'il est décédé au fort Saint-Louis, ben est-ce que son ou si le fort Saint-Louis a été un élément marquant dans sa vie, est-ce qu'il a décidé de hanter les lieux? Néanmoins, il est vrai que cette légende, plusieurs personnes racontent avoir vu dans les corridors de l'hôtel ou aux abords de l'hôtel le fantôme de Frontenac. À un point tel, cette histoire-là est tellement marquante qu'il y a quelques années, Poste Canada a fait une série de thèmes sur les lieux hantés au Canada. Et parmi les thèmes qu'ils ont frappés, il y avait, qu'ils ont imprimés, il y avait le thème qui montrait Monsieur de Frontenac devant le château Frontenac. Donc, il a même eu droit à son timbre. Maintenant, est-ce que ces histoires sont vraies? Est-ce que les gens se racontent cette histoire-là? On y ajoute des éléments? On raconte qu'une telle ou telle personne aurait vu ce fantôme-là? Bon, et surtout, c'est une tête couronnée, hein, je pense que c'est le George V, qui était le père de la reine Élisabeth, qui lui, apparemment, aurait vu le Hollandais volant, donc une espèce de bateau fantôme durant sa carrière militaire. Donc, on aime ces histoires-là, mais ça devient difficile à vérifier quelle est l'acuité du récit et quelle est la dynamique, disons, l'aspect le plus réaliste ou vérifié ou vérifiable de la chose. Là, on est vraiment en terrain glissant.
Mais quand même, la reine Élisabeth, est-ce que ça, quand tu fais tes enquêtes, là, Christian, est-ce
Ouais.
que.
La reine Élisabeth me répond pas.
Non, c'est ça.
Ne
Ce que je veux dire, c'est.
Ça me rassure, Christian.
Tu tombes sur une témoin qui s'appelle Audrey ou tu tombes sur un témoin qui est policier de profession. Est-ce que ça a la même valeur pour toi, le témoignage?
Ça, là, tu viens de poser une superbe question. Et la réponse, elle est, selon les recherches qui ont été menées en sciences cognitives, la réponse est non. On a tendance à croire, quand on lit des récits d'OVNI ou de fantômes, on a tendance à débuter le récit, hein, quand on lit ça dans le journal, on le raconte, ben voilà, le témoin était un pilote d'avion ou le témoin était un policier. Donc, ça ajoute, hein, c'est une espèce de biais d'autorité. On a l'impression que ça doit être plus sérieux puisque le témoin est un policier, puisque le témoin est un pilote. Mais les faits montrent que lorsqu'on ne sait pas ce que l'on observe, que l'on soit pilote, policier ou une personne qui travaille dans un restaurant de restauration rapide, le témoignage n'a pas plus de valeur. Les gens commettent exactement les mêmes erreurs. Donc, toutes les notions, si tu ne sais pas ce que tu observes, autant le témoin qui travaille chez McDonald's, toutes ces évaluations à propos de la distance, d'exactement ce qu'il voit, risquent d'être faussées, tout comme un pilote. Le pilote est peut-être bien bon dans son avion pour déterminer un autre avion qui se trouve à 10 ou 20 km de distance, mais s'il ne sait pas ce qu'il observe, il est incapable de te dire si la lumière qu'il a observée est à 2 km ou si elle est à 500 km. Donc, c'est un faux préjugé, en fait, c'est un préjugé favorable que de croire qu'un pilote d'avion, un policier sont des meilleurs observateurs et que leur témoignage a plus de valeur, alors qu'en réalité, c'est absolument faux. La seule chose que l'on peut dire à propos d'un policier ou d'un pilote d'avion, ben ces gens-là auront certainement moins tendance à vouloir monter un canular. C'est-à-dire que si on est dans l'univers de la fraude, ben on comprend que ces gens-là ont plus à perdre que le type, quidam qui t'invente une histoire pour faire parler de lui. Mais à partir du moment où on est en présence d'un témoignage qui est livré de manière honnête, ben, que peu importe la profession de l'individu, si on ne sait pas ce que l'on observe, le témoignage ne doit pas être considéré différemment.
Christian, je te remercie pour cette belle heure en ta compagnie. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Puis je regarde les commentaires des auditeurs depuis tantôt. Tu fais encore énormément réagir. Les gens t'apprécient.
Les gens sont fascinés.
On invite les auditeurs sur ton site web, christianpage.ca, ou encore à se pointer dans toutes les bonnes librairies. Tu as tous tes livres qui sont là. Puis
Moi, je suis sur les enfants qui tuent, c'est ça, en
les
ce moment?
Oui, quand les enfants tuent.
Ah, exactement, quand les enfants
quand les
tuent.
Enfants tuent.
J'ai commencé ça récemment, c'est quelque chose, hein?
Ben oui, ben oui. Surtout qu'Audrey, tantôt, on fait des petits jeux pendant la soirée, puis Audrey nous a parlé de ses peurs, puis je sais pas si toi tu faisais ça quand tu étais petit, Christian, mais quand on était petit, puis nos parents nous disaient d'aller nous coucher, on partait à courir juste avant d'arriver où notre lit, puis on sautait sur notre lit pour
sautait
pas que
lit.
Le monstre qui se cachait sous le lit puisse nous prendre les pieds. Ben Audrey, à 30 ans, fait encore ça.
Non!
Le réflexe est resté.
Ouais. Mais encore une fois, merci de me recevoir à ton émission. Puis oui, évidemment, j'invite les gens à se procurer mes livres en librairie. Puis bon, j'espère bientôt reprendre des cons. J'étais malade au cours des dernières années, mais là, ça
Ouais.
va mieux. Donc, je pense reprendre des conférences à Québec. Donc,
On va se le souhaiter pour
j'espère
nous
que
autres.
les gens.
Ouais,
Oui, c'est
on
ça.
va se le souhaiter pour nous autres. On va te le souhaiter que tu restes en santé le plus longtemps possible. Puis quand tu passeras à Québec,
Viens nous
tu viendras nous
voir.
voir en studio, ça va nous faire plaisir.
Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Christian
Salut.
Page, un
Ciao,
gros
ciao.
merci.
Bye
Je
bye.
vous rappelle que vous êtes dans l'open mic sans limite. On ne sait pas trop vers quelle heure qu'on va terminer ce show-là.
Mais
parce
là,
que
en plus, la rouge vient de débarquer, là.
La première expérience qu'on fait. Les auditeurs sont là, sont présents, sont sur les réseaux sociaux. Puis, ils semblent être bien divertis. Je sais que mon chum Max Larouche vient d'arriver. Je l'ai vu arriver dans les dernières minutes. Fait qu'on va certainement lui jaser. La ligne ouverte s'en vient dans pas long.
Mais là, c'est ça.
Que...
Moi, j'ai encore des attentes, là.
Je vous rappelle qu'on a encore des cadeaux à faire tirer. Nathan Meilleur qui est là pour nous accompagner. Merci,
mais,
Nathan.
Mais plaisir, mais là, moi, je vais laisser ma place à Max.
Mais ouais,
au moins que tu
ben
quittes.
Oui. Moi, oui, je vais quitter. Mon
pas,
Dieu,
pas
Seigneur.
Pas fait si fort que ça, un survivant du cancer.
Non, c'est ça. C'est... Mais Nathan,
ça
il est là.
Ça a battu le cancer, mais rendu à 23h.
C'est fatigué, c'est brûlé.
Il est présent, il est là, il est tout le temps, il dit oui,
on
mais...
On n'a même pas
il...
eu le temps de faire nos jokes de mon oncle.
Il est magané. Fallait que je prépare des jokes de mon oncle.
Ben, on voulait en faire.
Ben,
parce que là, vendredi n'existe pas.
Ben, c'est ça l'affaire, là. Moi, ce que je propose...
Audrey, sais-tu sais quoi le meilleur moyen de faire disparaître la gomme dans les cheveux d'un individu?
Le cancer.
Tabarnak.
C'est le seul qui peut faire ce
joke-là!
Oh mon
Dieu, c'est noir, ce là! Ouch!
Bon, ben, Nathan Meilleur, je te souhaite de passer
oui,
une belle soirée.
Merci,
hey, merci
d'être passé pour
beaucoup
vrai.
Pour l'invitation. Vous faites vraiment une super émission. Puis je sais que vous êtes débordés parce que vous travaillez, mais pour vrai, prenez le temps d'aller lire les textos des auditeurs parce que moi, j'ai pris le temps de faire ça dans les dernières minutes en écoutant M. Page. Sincèrement, les auditeurs trippent sur cette formule-là. Vous êtes très appréciés.
On va-tu rajouter ça à l'automne?
On s'amuse.
Un jour de plus en soirée.
Nous autres, on n'est pas comme vous autres là, à week-end. On n'a pas besoin d'amour tant que ça. Fait qu'on n'ira pas lire les auditeurs.
Nous autres, c'est juste ça qu'on fait.
Ouais, ouais.
On siphonne ça.
L'amour.
Ça,
Allez, merci.
Ça travaille 2 minutes par heure, ça écoute de la musique, ça lit les auditeurs.
Grosse job. Hein?
Son 4.
C'est payé cher. C'est pas
hey,
vrai, on vous aime
non,
tellement.
Non, un gros merci. Puis,
hey, ça fait plaisir.
On lit tous vos commentaires, soit dit en passant, pour nous écrire. C'est le 418-971-1021. C'est par texto. On salue la belle gang sur Twitch là, qui nous accompagne aussi. Puis on est sur l'application Boulevard. Donc, s'il y a quoi que ce soit, merci de nous informer. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, on est là. Audrey va enquêter. Peut-être pas avec la face qu'elle a présentement, mais demain, mec,
elle va se faire enquêter. Ça continue. Mais moi, je m'en vais, mais je vais vous écouter là, la ligne ouverte tantôt. Ça
ben
se peut que je vous rappelle.
Ben oui, appelle au
père. Je vais peut-être faire ça. Là, je vais vous rappeler tantôt aussi, mais continuez votre bel job.
Il y a encore du monde. 88 971 102. Êtes-vous là? J'ai envie. Les présences, on prend les présences.
Ça me prend votre prénom, puis dites-moi de où est-ce que vous nous écoutez.
Ah, c'est bon ça. Puis on fait tirer une carte cadeau.
C'est quoi la ville, puis qu'est-ce que vous faites comme travail si vous travaillez, ou qu'est-ce que vous faites à la maison,
là.
Sur la route. Voilà. 11h04, on vient.
L'Open Mic